Nous sommes le vendredi 14 mai 1948. David Ben-Gurion proclame la fondation de l'État d'Israël. C'est au musée de Tel Aviv. Mais il y a un absent de marque en ce jour historique, et c'est Chaim Weizmann. Il est aux États-Unis. Il y a quelques jours, il avait envoyé un télégramme à Ben-Gurion. « David, il faut proclamer la déclaration de l'indépendance dès que les Britanniques vont partir. » C'est donc chose faite le 14 mai. Weizmann, lui, est à Washington. Il doit remplir une mission délicate. Elle n'est pas gagnée d'avance. Il s'agit de convaincre le président Harry Truman de reconnaître Israël. Le locataire de la Maison Blanche finit par accepter et pour le remercier, Weizmann lui offre une Torah. Ben-Gurion envoie un télégramme à Weizmann. Il le remercie chaleureusement et lui annonce « Chaim, tu as été élu président du Conseil provisoire de l'État d'Israël. Prends le premier avion et le 16 mai 1948, Weizmann est de retour dans ce nouveau pays qui s'appelle Israël. » Mais commençons par le commencement. Chaim Weizmann naît le 27 novembre 1874 à Motal. C'est un tout petit village de la Russie tsariste. Son père est marchand en bois et Chaim aura 14 frères et sœurs. Chaim étudie comme tous les garçons de son âge au Cheder, puis il part au lycée de Pinsk. Il va faire plus tard des études universitaires de chimie en Allemagne, puis en Suisse. Dans le même temps, Weizmann est séduit par les idées de Theodor Herzl. Comme lui, il pense qu'il faut fonder un État juif. Mais Weizmann n'arrive pas à temps au premier congrès sioniste en 1897 à Bâle. C'est celui où Herzl déclare « J'ai fondé l'État juif. On me traitera peut-être de fou, mais dans 50 ans, tout le monde sera d'accord. » Weizmann est en effet à Moscou, mais il ne ratera pas les congressionnistes suivants. En 1904, Weizmann s'installe à Manchester. Il fait enregistrer plus d'une centaine de brevets dans son domaine de prédilection. Weizmann joue un rôle non négligeable dans la Première Guerre mondiale. En 1915, il met au point un procédé qui permet de fabriquer des obus pour la marine de guerre britannique. Weizmann est alors en lien avec le premier lord de l'amirauté, qui s'appelle Arthur Balfour. Weizmann n'est pas étranger à la fameuse déclaration du 2 novembre 1917. Balfour, qui est devenu entre-temps ministre des Affaires étrangères, affirme que le gouvernement de Sa Majesté est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Weizmann ne s'arrête pas là. Il faut trouver un arrangement avec les Arabes avant la création d'Israël. Et il signe un accord le 3 janvier 1919 avec l'émir Faisal, le futur roi d'Irak. Mais il n'y aura aucune suite concrète. À partir de 1920, Weizmann devient le président de l'Organisation sioniste mondiale, puis de l'Agence juive, en 1929. Mais Weizmann est aussi un universitaire et un scientifique. Le 1er avril 1925, il inaugure l'Université hébraïque de Jérusalem. Et Weizmann travaille dans son laboratoire à l'Institut Ziv de Rehovot, qu'il a fondé en 1934. Puis, après les premières élections législatives, en janvier 1949, Weizmann est élu le 17 février à la présidence. Il bat Joseph Klausner, qui est le grand-oncle d'Amos Oz. Weizmann devient donc le premier président de l'État d'Israël. Mais Weizmann est en train de perdre la vue. Il décide que sa résidence officielle, ce sera dans sa maison à Rehovot, et il refuse tout salaire. « J'ai gagné suffisamment d'argent avec mes brevets. » En 1951, il est réélu pour un deuxième mandat. Chaim Weizmann meurt le 9 novembre 1952. Il est enterré dans son jardin. Il est à deux pas du centre de recherche et porte désormais son nom. C'est bien sûr l'Institut Weizmann.
Feel it's time.